Je voudrais moi aussi souhaiter à tous une cordiale bienvenue ce matin dans le précieux nom du Seigneur. Et je me prends la liberté de souhaiter la plus cordiale bienvenue à notre sœur bien-aimée Sarah Branham Corrado. Elle est la plus jeune fille de frère Branham et a vu et entendu beaucoup de choses de ce que Dieu a fait. Et je dois beaucoup au Seigneur grâce au ministère de frère Branham. Il est pour moi comme Paul est pour Timothée. Ainsi, frère Branham est devenu et a été pour moi une bénédiction directe. Et je peux me souvenir de ce jour-là et en général de l'époque où j'étais dans le plus grand besoin, spécialement en 62, après que le Seigneur ait parlé et que j'ai pu prendre un vol vers frère Branham et qu'il m'a dit par révélation tout ce que le Seigneur avait dit et ce qui allait venir et ce qui devait être fait. Maintenant, la fille de cet homme de Dieu a eu une expérience et elle a entendu la voix lui dire « Lève-toi et va trouver frère Franck ». Et elle m'a appelé. Elle est venue début juin. Maintenant, elle est allée brièvement en Suisse et est ici aujourd'hui. Repart demain en avion et je sens que nous devrions au moins la voir. Pas l'écouter, mais car vous savez que dans ce lieu, nous le tenons comme la Bible dit, que sont les frères qui parlent et qui exercent leur service. Mais eux, je dirais simplement qu'elle puisse simplement venir devant et repartir s'asseoir pour que nous qui sommes assis devant, nous n'ayons pas à nous retourner pour la voir, sinon ça pourrait arriver que nous ayons tous une contorsion et que Dieu nous en préserve. Ceux qui sont assis devant. Oui, nous vous accueillons au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ et nous nous sentons honorés de vous avoir parmi nous ce matin. Si vous pouviez venir tous trois devant pour que tout le monde vous voie. Et c'est exactement, elle est celle qui ressemble le plus à frère Branham de tous les enfants. Nous sommes honorés de vous voir ici ce matin. Que Dieu vous bénisse richement et soit avec vous. Merci. Merci pour être venu. Que Dieu vous bénisse. C'est vrai, il est vrai que Dieu a utilisé les hommes depuis le début des temps et qu'il les utilise jusqu'à la fin. Je l'ai dit dimanche dernier à Zurich, il y a eu des hommes de Dieu, de grands hommes de Dieu, spécialement depuis la Réformation. Personne ne peut prendre leur place. Ils avaient tous leur tâche, leur place dans l'évolution depuis la Réformation. Mais aucun d'entre eux n'a prêché le plein évangile. Il n'y en avait aucun parmi eux qui aurait mis la prédication apostolique pleinement sur le chandelier. Ils ont tous fait leur part durant les âges et aucun d'entre eux non plus. Pas même Charles Price, ni Wigglesworth, ni Moody, ni Wesley ont pris le passage de l'évangile de Jean, chapitre 12. Aucun d'eux a utilisé l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 14, et a mentionné ce verset. Chapitre 14, verset 12. Les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi, et vous en ferez de plus grandes que celles-ci. Pas un seul de tous ces grands hommes de Dieu, dont nous ne doutons pas de leur mandat, et dont nous ne voulons et ne voulons pas en faire de concessions, pas un seul d'entre eux ne s'est appuyé sur ce passage biblique qui fait pourtant partie de la parole de Dieu et n'en a fait l'expérience personnelle. Nous pouvons le confesser librement et ouvertement. Combien de fois frère Branham a-t-il cité ce passage? Je vous le lis pour que vous sachiez qu'il a été écrit ainsi. Le mieux est de lire chaque passage biblique à haute voix. Regardez, par exemple, c'est Jean 14, verset 12 et non pas... Il avait dit 12, 14... Comme je l'ai dit précédemment, Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis. Bien, frères et sœurs, quand il est dit en vérité, quand un seul En vérité, est dit, on doit bien écouter. Mais quand il est dit deux fois, en vérité, je vous le dis, là, on doit vraiment encore bien écouter. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et même des œuvres plus grandes que celles-ci. Et cela s'est effectivement produit. Des morts ont été ressuscités. Le garçon en Finlande. Et frère Branham a également vu les choses en face, à l'avance, en vision, et a ainsi eu l'absolu de Dieu. Et il a dit, écrivez-le dans votre Bible, cela va arriver. Je l'ai vu, un garçon d'environ 11 ans, couché sur le bord de la route, renversé par une voiture, et mort, il a témoigné des détails à travers tout le Canada et toute l'Amérique, dans les réunions. Et puis alors qu'il était allé en Finlande, vous avez dit, il avait dit amour au frère Moore et au frère Lindsay, je sens que quelque chose d'extraordinaire va se produire. Et voici que cela s'est produit sur place. Et il a dit, ouvre ta Bible et lis si c'est la scène telle que je l'ai vue et décrite dans la vision. Et cela lui donnait toujours la certitude. Et là, nous pouvons aussi prendre le deuxième passage auquel il s'est directement référé et que personne d'autre n'a pris non plus. Jean 5, versets 19 et 20. Jean 5, versets 19 et 20. C'est pourquoi Jésus s'exprima ainsi à leur égard. En vérité, je vous le dis. Le Fils ne peut faire de lui-même que ce qu'il voit faire le Père. Voit faire le Père. Car ce qu'il fait, le Fils le fait aussi de la même manière. Car le Père aime le Fils et il lui fait voir tout. Il lui fait voir. Il fait voir tout ce qu'il fait lui-même. La même chose s'est produite dans notre génération. Il y avait un voyant, un homme envoyé par Dieu. Il a vu ce que Dieu ferait dans la vision et l'a exprimé. Et parmi des dizaines de milliers de fois, n'était pas une erreur, pas une faute. Et quelqu'un lui a demandé, tu n'as pas peur de le dire comme ça à l'avance? Et la réponse était très simple. Il répondit, comment pourrais-je avoir peur et craindre de dire ce que Dieu me montre? Ce que Dieu montre et dit doit être vrai. C'est la vérité. C'était et c'est et ce sera la vérité. Très important. Il était chargé de ce ministère et l'a fidèlement exécuté. Et sur le troisième passage, très connu de nous tous, que personne n'osait non plus prendre en voie, utiliser, c'est Hébreux 13, verset 8, très très connu de nous tous, Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et puis la phrase est venue derrière. S'il est le même aujourd'hui, alors il fait aujourd'hui la même chose que ce qu'il a fait alors, autrefois. Et moi-même, je l'ai moi-même vu des gens nés aveugles devenir voyants. En un instant, j'ai vu des personnes rongées par le cancer être guéries en un instant. J'ai vu les actes des apôtres de mes propres yeux et j'en ai été le témoin vivant. Je peux témoigner en tant que témoin oculaire et auriculaire que Jésus-Christ est le même à notre époque tel qu'il était autrefois, car il a fait la même chose dans notre époque. Et c'était aussi la confirmation de la parole qui a été prêchée. Nous sommes donc reconnaissants que Dieu nous ait gracieusement visités, qu'il nous ait révélé, montré les promesses pour ce temps, par grâce. Car cela aussi devrait être dit clairement une fois. Il ne suffit pas que Dieu se révèle à nous et que nous le reconnaissions en Jésus-Christ. Nous en sommes reconnaissants. Mais la révélation de Jésus-Christ n'est que le commencement. Et ensuite vient la révélation de la parole, la révélation de sa volonté, de son nom et de tout son conseil de salut. Dieu a un peuple sur terre qui porte son nom, qui porte sa parole, qui porte sa nature. Dieu a un peuple sur terre, une troupe rachetée par le sang, qui lui appartient parce qu'elle est sa propriété. En ce lieu, nous croyons que tout ce que Dieu a donné et promis devait être accordé à l'Église. L'enseignement sur la divinité, l'enseignement sur le vrai baptême biblique, tout l'enseignement, plus les promesses que Dieu a faites pour ce temps. Nous voulons proclamer un plein évangile, un plein salut, et ainsi servir le peuple de Dieu et vivre ensemble la préparation devant le Seigneur. Que Dieu nous bénisse et soit avec nous par grâce. Je vais faire deux ou trois remarques concernant les deux cantiques et aussi la parole. Mais avant de dire cela, j'ai pensé à la phrase ou aux trois phrases que frère Pézal a lues mercredi dernier lors de la réunion à Gachlingen. Je les ai notées. Elles sont ainsi formulées. Ce sont les sages qui voyagent vers la vérité par l'erreur. Ceux qui persévèrent dans l'erreur, ce sont les fous. En effet, nous avons tous été plus ou moins appelés à sortir de l'une ou l'autre erreur. Aucun d'entre nous ne peut dire qu'il est déjà né dans la vérité par sa naissance naturelle. Par la naissance naturelle, nous sommes tous nés dans le péché, nous sommes nés dans ce monde. Mais par la nouvelle naissance, nous naissons de la vérité, dans la vérité, nous y sommes transférés et devenons ainsi une partie de la vérité divine. Jésus a dit, « Je suis né pour cela et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Il était la vérité, il est la vérité et il a témoigné de la vérité. Il en va de même pour nous. Pour que nous nous en souvenions, j'aimerais relire ce passage, ce sage proverbe. Ce sont les sages qui atteignent la vérité par l'erreur. Mais ceux qui persévèrent dans l'erreur, ce sont les insensés. Que Dieu nous aide à connaître la vérité et à devenir libre par la vérité afin de pouvoir vraiment servir le Dieu Tout-Puissant, librement et de tout notre cœur. Je ne sais pas si frère Rousse est conscient du fait qu'il a lu le même psaume en mai 1979 ou bien 79, avant que Satan ne frappe pour tout détruire, ici, au même endroit. Mai 79, je l'ai noté à gauche dans ma Bible. Que Dieu il trouve son que cela plaise à Dieu maintenant de donner, d'accorder un tournant pour construire, pour bâtir, pour consolider, pour fonder, pour affermir, pour nous mettre vraiment en état de communion réelle avec Dieu et de la communion entre nous les uns avec les autres par la grâce de Dieu. Nous continuons avec le même thème qu'hier soir. Et je voudrais juste faire référence très brièvement aux deux chants, aux deux cantiques. La nuit tombe. Levez-vous, car la nuit arrive. La nuit tombe, nous le savons tous. Mais il y aura aussi le matin glorieux pour les uns le matin glorieux et la nuit effrayante pour les autres. C'est de ce matin qu'il est question ici dans le cantique, quand le matin éternel se lèvera et que le temps ne sera plus. Beaucoup pensent que le temps n'est déjà plus maintenant. Remercions Dieu que le temps de la grâce soit encore là. Puis, quand le temps de Dieu flambera dans le grand incendie du monde, considérons donc avec sérieux l'importance de ce jour. Il cite le cantique. Combien de fois l'avons-nous dit ici? Celui qui veut servir le Seigneur doit le faire maintenant. Doit commencer aujourd'hui, pas demain. Demain peut être trop tard. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme nous l'avons dit plus tôt, par la naissance terrestre, nous sommes nés dans le faux. Mais par la nouvelle naissance, nous sommes nés dans le juste, par grâce. Et nous avons un accès et un lien avec la vérité. Car la nuit vient. Levez-vous avec le jeune jour et travaillez dès le matin, avant qu'il ne soit trop tard. Puis, levez-vous, car la nuit viendra, parce que les meilleures forces, consacrez les meilleures forces au Seigneur Jésus-Christ. Agissez avec sérieux, vous qui êtes pieux, abandonnez tout le reste, car la nuit viendra où l'on ne pourra plus travailler. Puis, levez-vous, car la nuit viendra. Il continue à citer le cantique. Quand le soleil s'éloignera, quand le soir sonnera l'alarme, quand le jour s'enfuira jusqu'au dernier moment, appliquez-vous seulement à cela, car la nuit viendra où l'on ne pourra plus travailler. Lisons les paroles de Dieu dans le proverbe Ésaïe, chapitre 21, dans le prophète Ésaïe, chapitre 21, versets 11 et 12. Oracle sur Douma de Zéhir, on me crie, sentinelle, quelle heure est-il dans la nuit? Sentinelle, quelle heure est-il dans la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez en savoir plus, revenez une autre fois et demandez. Telle est la réponse divine. Le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez en savoir plus, si cela ne vous suffit pas encore, si vous voulez en savoir plus, alors revenez une autre fois et demandez. Pas déjà autrefois, car autrefois, c'était la promesse qui avait été faite. Venez lorsque la promesse sera sur le point de se réaliser. Informez-vous au moment de la réalisation de ce que Dieu a promis dans sa parole. Et nous verrons très clairement dans les Écritures aujourd'hui à quel jour, à quelle nuit, à quel matin les prophètes ont fait référence. Je voudrais lire le chapitre 31 de Jérémie. Jérémie, chapitre 31, verset 6. Car un jour viendra où les sentinelles de la montagne d'Éphraïm crieront. Levez-vous, montons à Sion vers l'Éternel, notre Dieu. Car un jour vient. Car le jour vient. Le jour vient. Quel jour? Le jour vient. Alors les sentinelles de la montagne d'Éphraïm crieront. Levez-vous. Allons à Jérusalem vers l'Éternel, notre Dieu. Comme nous l'avons lu hier soir, Dieu a placé des sentinelles sur les murs de Sion. Des sentinelles dans son église qui ont les yeux ouverts pour reconnaître le temps et l'heure dans lequel nous vivons maintenant. Des sentinelles qui donne le dernier avertissement et la dernière mise en garde avant que la nuit totale ne tombe, d'une part, et puis, bien sûr, celui, le matin éternel, d'autre part. Je voudrais lire de Jérémie 13, à partir du verset 15. Ici, il est écrit de cette manière ainsi. Jérémie 13, 15. Écoutez et soyez attentifs. Ne soyez pas orgueilleux, car c'est l'Éternel qui a parlé. Rendez gloire à l'Éternel, votre Dieu, avant la nuit, avant que vos pieds ne se heurtent aux montagnes dans l'obscurité, et qu'alors vous attendiez la nuit, la lumière, pardon, mais qu'il la réduise à l'obscurité la plus profonde et qu'il la change en ténèbres de nuages. Voici maintenant la réponse à cette question. Mais si vous n'écoutez pas, le verset 17 maintenant, Jérémie 13, « Je pleurerai de chagrin en secret à cause de votre orgueil. » Qui écoute aujourd'hui à la voix de Dieu? Qui écoute la voix de Dieu? Les humbles du pays, les orgueilleux croient tout savoir, tout connaître, et ils ne savent rien et ne connaissent rien. C'est écrit ici. Mais si vous n'écoutez pas, je pleurerai de chagrin en secret à cause de votre orgueil. Et mon œil ne cessera de fondre en larmes parce que le troupeau de l'Éternel sera amené captif. Là où se trouve l'Éternel, là se trouve l'Évangile de Jésus-Christ. Et le même message que celui qu'il a confirmé dans Luc 4. L'Esprit du Seigneur Dieu repose sur moi pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles, le retour à la vue, l'année agréable du Seigneur. Telle a été sa prédication. Et je peux vous lire dans le chapitre 2 d'Hébreux qu'il a été écrit dans la Bible que cette annonce n'a pas commencé par Jean-Baptiste. Il était le précurseur. La prédication a commencé par Jésus-Christ lui-même. Hébreux, chapitre 2, versets 3 et 4. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Car ce salut a commencé par la prédication du Seigneur lui-même et nous a été ensuite confirmé fidèlement par les témoins qui l'ont entendu. Dieu en a encore rendu témoignage par des signes et des prodiges, par de multiples actes de puissance et par la distribution du Saint-Esprit selon sa propre volonté. Le commencement a été fait par notre Seigneur lui-même. Car il est écrit, il a commencé à faire les deux, à enseigner et à, il a commencé à faire les deux, à pratiquer et à enseigner. Pas seulement à enseigner, mais à pratiquer. Que cela plaise au Seigneur de faire de nous en tant qu'Église cet organisme vivant, imprégné de l'Esprit et doté et revêtu de la puissance d'en haut, où non seulement la mécanique a été assemblée par grâce, mais où la dynamique divine pourrait s'y ajouter et où le Seigneur témoigne qu'il est vivant, qu'il est le même dans toute éternité. Je voudrais continuer à lire le chapitre 51. Dans Jérémie, le chapitre 51, et comme il y a plusieurs passages, je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur un seul. Jérémie, chapitre 51, verset 12. Jérémie 51, verset 12. Jérémie 51, 12. « Contre les murs de Babylone, plantez une bannière. Renforcez la surveillance. » Renforcez la surveillance. Placez des sentinelles. Mettez des équipes en embuscade. Car comme l'Éternel l'a résolu, il exécute ce dont il a menacé les habitants de Babylone. Ô ville, Jérémie 51, verset 13, qui habite près des grandes eaux, riche en trésors, ta fin est venue. La mesure est pleine à couper. L'Éternel des armées a juré par lui-même, si je t'ai rempli d'hommes comme de sauterelles, on poussera contre toi des cris de victoire. À quel passage du Nouveau Testament avez-vous maintenant pensé? Qui peut me le dire? Nous sommes entre nous. À quel passage du Nouveau Testament avez-vous pensé maintenant? En lisant la parole prophétique, vous pouvez réfléchir encore une fois. Verset 12 encore. Maintenant, le verset 12. Contre les murs de Babylone, planter une bannière, renforcer la surveillance, placer des sentinelles, etc., etc. Ensuite, il est écrit ici, au verset 13. Ô ville qui habite près des grandes eaux, ô ville, Apocalypse 17, avec des trésors d'or, de pierres précieuses, richement parées, vêtues de pourpre, à son siège, près de nombreuses eaux, et des eaux sont des peuples, des langues et des tribus. La fin est venue sur toi. Ce qui est important pour nous aujourd'hui dans ce contexte, c'est la déclaration. Renforcer la surveillance. Placer des sentinelles. Oh, que l'Éternel puisse placer sur toute la terre des sentinelles sur les murs de Sion, parmi son peuple. Ceux qui donnent l'avertissement, qui ont eux-mêmes la révélation, et qui savent dans quel temps nous vivons. Et aussi ce qui est important maintenant, la parole la plus connue concernant la sentinelle est probablement écrite dans Ézéchiel 3, verset 17. Ézéchiel 3, verset 17. Ici, nous lisons peut-être les versets 16 et 17. Au bout des 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée à ces termes. Fils d'homme, je t'ai établi comme sentinelle pour la maison d'Israël. Si tu entends une parole de ma bouche, tu les réprimanderas en mon nom. Il faut d'abord que la parole de l'Éternel soit donnée. Et ensuite, on peut la transmettre. Pas avant. Qui détient la parole fraîchement révélée du trône de Dieu? Pour ce temps, où Dieu a-t-il pu révéler sa volonté? Où a-t-il confirmé sa parole en ces jours par des signes et des miracles puissants? Nous sommes reconnaissants au Seigneur de l'avoir vécu et vu. Et je reviens à la parole de Jean 14, verset 12. Jean 14, verset 12. En toute humilité, cet homme de Dieu a fait preuve de foi, a également fait appel à la deuxième partie du verset. Et faire encore plus que je n'ai fait. Puis, vous ferez plus que j'ai fait. Et puis, il a soudain déclaré, au service de notre Seigneur, tous les miracles ont en principe été accomplis. Les morts ont été ressuscités, les aveugles ont vu, les boiteux ont marché, les sourds ont entendu. Tous les muets ont parlé, qui sont venus à lui. Tous ces produits. Et qu'est-ce qui ne s'est pas passé? Dites-moi, un miracle de la création. Un miracle de la création que l'on pourrait voir, dont on pourrait être témoin. Que Dieu ne rend pas seulement la vue à ceux qui sont là, mais qui ne voient plus. Et les pieds à ceux qui sont là, mais qui sont boiteux et ne peuvent pas marcher. Mais un miracle de la création. Et je pense en particulier un miracle de création. Et je pense en particulier à celle de la femme, à celui de la femme dont, dans la ligne de prière, avant son mouchoir, elle avait avec son mouchoir posé directement devant elle. Et l'homme de Dieu dit, « Sœur, ne pleure pas, crois seulement. » Et la sœur continue à pleurer. Et il dit à nouveau, « Ne pleure pas. » mes confiances, fais confiance au Seigneur. Crois seulement. Et pendant ce temps, elle écarte le mouchoir et voici que la femme n'a plus de nez. Elle n'a plus de nez. Le cancer a dévoré le nez et elle avait honte. Et c'est pourquoi elle se tenait ainsi. Elle ne pleurait pas seulement. Elle avait honte de s'avancer comme ça. Et je l'admets honnêtement. Et mes frères bien-aimés, soyez tous aussi honnêtes. Nous aurions tous rendu l'âme à ce moment-là. Et cet homme de Dieu reste tel qu'il est, parce que Dieu l'avait mis là. C'était Dieu qui l'avait mis là. C'était une mission divine. Dieu avait pris la responsabilité de l'envoyer. Et il a dit également, calmement, toutes choses sont possibles à celui qui croit. Et si tu peux croire, tu verras la gloire de Dieu. Et il demanda, crois-tu ma sœur? Et elle répondit, oui, je crois. L'homme de Dieu dit, et l'illustration est apparue dans le Herald of Hope, publié par Matze Bosé à Chicago en 1958. Et la femme y était représentée. En 3 semaines exactement, un tout nouveau né avait poussé comme l'ancien. Notre Dieu peut tout faire. Si vous ne pouvez pas croire. Oui, je ne sais pas si nous sommes croyants alors. Pensez donc aux Saintes Écritures. Il y a une dispute parmi le peuple d'Israël pour savoir qui, de toutes les tribus, Dieu a appelé pour faire le service. Tous les 12 devaient apporter leur bâton devant la face de Dieu et les déposer dans l'arche de l'Alliance. Et voici qu'en une seule nuit, il y eut un bâton mort qui portait des fleurs de fruits. Et tous les autres bâtons étaient comme auparavant. Notre Dieu peut tout faire. Il peut faire naître des enfants à Abraham à partir de pierre. Il peut faire jaillir l'eau du rocher. Que nous secouions la tête ou non, Dieu ne demande rien à personne. Il fait ce qu'il veut faire. Que son nom soit sanctifié. Que toute la terre soit remplie de sa gloire. Notre Dieu est un Dieu glorieux, un grand Dieu. Nous pouvons vraiment lui faire confiance, car il fera tout bien. Je voudrais encore entrer dans le Nouveau Testament, en bref, pour nous montrer qu'ici, il est dit que Dieu a placé des sentinelles, qu'il a désigné des gardiens, des sentinelles, qu'il a établi des sentinelles pour servir le peuple de Dieu, pour veiller. Et nous avons lu que la surveillance doit être renforcée. Pourquoi? Parce que le danger est devenu plus grand. Les ruses et les pièges de l'ennemi sont devenus pires aujourd'hui. Renforcez la surveillance. Unissez-vous et le Seigneur sera avec vous et avec nous. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur a placé des ministères dans l'Église pour l'édification du corps de Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens, au 12e chapitre, versets 28 à 30, il est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 12, du verset 28 au verset 30. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les uns comme apôtres. Deuxièmement, comme prophètes. Troisièmement, comme enseignants. Ensuite, des miracles. Puis, des dons de guérison, des secours, des administrations, des langues de diverses sortes. Peut-être jusqu'ici, cette parole glorieuse de Dieu. Dieu a établi dans l'Église. Et tant que l'Église est sur la terre, l'ordre divin est en vigueur. Et si ce qui est lu et écrit ici n'est pas encore là dans l'Église, dans toute sa mesure, nous n'aurons auparavant aucun repos jusqu'à ce que Dieu l'ait rétabli comme au commencement, car il a promis de tout rétablir et de tout remettre en ordre, de ramener tout, de rétablir tout avant l'arrivée du grand et terrible jour de l'Éternel. Le prophète Ésaïe l'a dit par l'Esprit, demain viendra et la nuit aussi. Si vous voulez en entendre davantage, revenez et demandez. Nous voulons en entendre davantage. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 9, il est écrit au verset 4 que notre Seigneur a déclaré Jean, chapitre 9, verset 4, pardon, Jean chapitre 9, verset 4. Il faut que nous fassions les œuvres de celui qui m'a envoyé pendant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne peut travailler. Il faut que nous fassions. Le Seigneur a su ce que les prophètes ont dit en son nom. Il a adhéré à la parole prophétique. Et a annoncé ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Il s'est en effet référé à maintes reprises au passage de l'Ancien Testament. Nous devons accomplir les œuvres, pas tes œuvres, pas mes œuvres, mais Dieu veut faire ses œuvres à travers nous. Dieu veut annoncer par nous son dessein. Dieu veut, par notre intermédiaire, mettre son plan à exécution. Comme je l'ai dit plus tôt, le Seigneur a une église sur la terre, une troupe rachetée par le sang, un peuple qui lui appartient, comme sa propriété, un sacerdoce saint, une royauté de notre Dieu. Nous avons obtenu cet état par la grâce, cette position par la grâce du Seigneur, non par mérite, mais réellement par la grâce du Dieu vivant. Il faut que nous fassions les œuvres de celui qui m'a envoyé. Jean 9, verset 4. Qu'est-ce qui est écrit encore dans l'évangile de Jean? Celui qui est envoyé par Dieu annonce les paroles de Dieu. C'est ce qui est écrit. Je peux vous le lire dans Jean 3, verset 24. Jean, verset 34, car celui que Dieu a envoyé annonce les paroles de Dieu. Car Dieu, alléluia, celui que Dieu a envoyé annonce les paroles de Dieu. Alléluia, gloire au Dieu vivant. Celui que Dieu n'a pas envoyé parle en dehors de Dieu, à côté de Dieu. Il interprète la parole de Dieu. Mais celui que Dieu a envoyé prononce la parole de Dieu. Dans le 8e chapitre, c'est sans doute comme le dit notre Seigneur aux scribes de l'époque, qu'ils ne comprennent pas ces paroles parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Jean chapitre 8, verset 47. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. C'est pourquoi vous ne les écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les scribes avaient en effet la même Bible, le même prophète Ésaïe, les mêmes rouleaux, mais ils étaient des conducteurs spirituels aveugles et sont tombés dans la fosse avec le peuple. Ils sont tombés dans la fosse de leur propre connaissance. Et le Seigneur a dit, « Je suis venu dans le monde comme une lumière. Celui qui me suit ne restera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Celui qui suit vraiment l'Éternel, pas seulement un enseignement ou une connaissance, mais celui qui suit le Seigneur ne restera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » En ce qui concerne la vérité et l'écoute de la parole de Dieu, l'apôtre Jean l'a résumé ainsi dans 1 Jean chapitre 4, verset 6. 1 Jean chapitre 4, verset 6. Il a résumé cela ainsi dans 1 Jean chapitre 4, verset 6. Mais nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui ne connaît pas Dieu ne nous écoute pas. C'est à cela que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de tromperie. Tromperie ou de fraude. Bien-aimés, les hommes de Dieu, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, étaient aussi sûrs de la chose que la parole de Dieu est sûre, de ce qu'ils annonçaient. Ils savaient que ce n'était pas leur pensée, mais que le Saint-Esprit les poussait et parlait à travers eux. Et c'est pourquoi les paroles qu'ils nous ont apportées sont des paroles de Dieu, des paroles de vérité que nous recevons et croyons de tout notre cœur. Mais il a dit, nous sommes de Dieu. Et celui qui est de Dieu nous écoute. Bien-aimés, nous voulons le dire clairement. Les vrais enfants de Dieu ne peuvent pas persécuter les vrais enfants de Dieu. Ils ne peuvent pas leur faire du mal, car ils sont membres du même corps. Ce qui arrive à l'un est douloureux pour tous. Chacun porte pourtant avec chacun porte avec chacun le lien de l'amour. Donc chacun porte avec chacun par le lien de l'amour divin qui est la perfection. Le corps du Seigneur est vraiment l'organisme vivant de Jésus-Christ ici sur terre. Le lieu de manifestation du Dieu vivant. Là où il parle lui-même, là où il agit lui-même, là où il révèle sa volonté, où il fait connaître sa parole et veut se manifester aussi par des témoignages de puissance, comme au début, comme au commencement et maintenant à la fin. Dieu a établi dans l'Église des apôtres, des prophètes, des bergers, des enseignants, des évangélistes. C'est ce qui est écrit dans Éphésiens, chapitre 4. Verset 11. Et ensuite, une fois l'avertissement suivant, si nous prétendons être l'Église du Dieu vivant, alors nous ne devons pas abaisser le niveau de celui de l'Église. Nous devons avoir le modèle de l'Église primitive devant les yeux. Dieu a fixé un standard, a eu une Église modèle. Et l'Église modèle était au commencement. Elle était revêtue de la puissance du Saint-Esprit où Dieu pouvait se glorifier lui-même et rendre témoignage lui-même. Ça, c'est l'Église modèle. Et si le Seigneur, comme il l'a promis, est le même et fait la même chose aujourd'hui, et selon Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 19 à 21, le temps du rafraîchissement doit venir avant le retour de Jésus-Christ. Alors cela doit arriver. Alors nous ne serons pas satisfaits à moins que Dieu n'ait agi pour nous selon sa parole et qu'il ne l'ait confirmé. Actes des Apôtres, chapitre 3, du verset 19. Actes des Apôtres 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés soient pardonnés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie Jésus qui a été désigné pour vous comme oint. Oui, quand pourra-t-il l'envoyer? Lorsqu'il aura envoyé les temps de rafraîchissement et de restauration, et qu'il aura fait ce qui doit être fait avant que l'époux ne revienne pour ramener son épouse à la maison. Il est écrit, son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un lin d'une blancheur éclatante, ce qui est la justice des saints, non pas la justice de soi-même, mais pas notre propre justice, mais la sainte justice de Dieu lui-même, justifiée par la foi en Jésus-Christ, en l'œuvre de rédemption accomplie, comme nous sommes reconnaissants au Seigneur Dieu pour le plein et glorieux évangile et le salut. Le verset 21 dit de notre Seigneur Jésus. Lui cependant que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de tout ce que Dieu a annoncé par la bouche de ses saints prophètes depuis les temps anciens. Lui cependant que le ciel doit recevoir. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 11. Le même Jésus que vous avez vu élevé au ciel reviendra. Monter au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Mais avant qu'il ne revienne, avant qu'il ne puisse revenir, Dieu a parlé dès le commencement par la bouche de ses saints prophètes que d'abord viendra un temps de rafraîchissement, un temps de rétablissement de tout ce qui n'est plus comme au commencement. Tout ce qui n'est plus comme au commencement sera rétabli. Jésus est en effet l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Les gens changent, les circonstances changent. Nous tous, nous sommes changeants. Mais Dieu est le Dieu infaillible, le Dieu éternel. Et le Dieu saint ne ment pas. Il est la vérité. Il est la vérité. Et il dit la vérité. Et nous croyons sa parole. Nous la recevons. Puis nous la voyons confirmée ou accomplie devant nos yeux. Devant nos yeux. Nous croyons à 100% que Dieu veille sur toutes les promesses qu'il a faites pour ce temps. Il y veille. Il y a une parole magnifique dans le prophète Jérémie, au premier chapitre. Prophète Jérémie, chapitre 1. Il est écrit au verset 11. Jérémie, chapitre 1, verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Que vois-tu, Jérémie? Est-ce que vous remarquez, les prophètes étaient des voyants. Ils n'étaient pas des fantaisistes qui fermaient les yeux et transmettaient ensuite des images imaginaires. Ils avaient des visions imaginaires. Ils avaient les yeux ouverts. Un prophète ne ferme pas les yeux. Vous devez les fermer, moi aussi, quand je vois une vision. Mais un prophète ne ferme pas les yeux quand il voit une vision. Un prophète est un voyant. Chaque fois que cet homme de Dieu, je ne veux pas mentionner son nom trop souvent pour ne pas choquer, mais j'étais assis en face de lui quand il parlait par révélation et l'œil droit se fermait un peu plus. Et on voyait à ce moment-là, à l'expression de son visage, que Dieu agissait et il parlait par l'esprit de ce qu'il voyait. Jérémie et tous les prophètes ont vu. Si vous lisez bien la Bible, vous trouverez le passage selon lequel les prophètes ont d'abord été appelés voyants, puis voyants, lève-toi, par exemple, il est écrit voyant, lève-toi et prophétise ailleurs, mais pas chez nous. Consulte donc le prophète Ésaïe, consultez le prophète Ésaïe, par exemple. Et d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, les prophètes étaient des voyants. Ils voyaient par révélation ce que Dieu leur montrait. Et Jésus aussi était un voyant. Il devait être prophète, car Moïse avait dit, « Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Et toute âme qui n'écoutera pas ce prophète sera retranchée du peuple. » Il vit, il put dire aux disciples, « Allez à la ville, vous y rencontrerez un homme qui porte la cruche d'eau. Dites-lui que le maître te fait dire, « C'est dans ta maison. » que nous mangerons la Pâque. » Il pouvait dire à Pierre, « Va jeter l'hameçon du premier poisson que tu prendras. Ouvre-lui la bouche, sors la pièce de monnaie et paie l'impôt pour toi et pour moi. » Il était un voyant. Et quand on fait les... Quand on fait les scribes, oui, oh, ils ont dit c'est une chose obscure, c'est Belzébuth. Et qu'a dit notre Seigneur? Tout péché qu'un homme commet est pardonné. Mais le péché contre le Saint-Esprit n'est pas pardonné, ne sera pas pardonné à l'homme. Là où l'Esprit de Dieu agit de manière surnaturelle, nous devons nous tenir au garde à vous, devant le Dieu Tout-Puissant. Et si possible, enlever nos chaussures et reconnaître que le Seigneur parle. Je parle maintenant en termes spirituels pour que nous inclinions vraiment devant Dieu et sachions que nous nous tenons sur une terre sainte en présence de Dieu. Je poursuis la lecture de Jérémie 1, du verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Jérémie 1, 11. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche de l'arbre qui veille. Alors l'Éternel me dit, tu as bien vu. Oui, je veille sur ma parole pour la faire s'accomplir. Dieu veille sur sa parole pour qu'elle s'accomplisse. Mais il a aussi placé dans l'église des bergers qui doivent veiller. Dieu veille sur tous, sur tout. Puis il établit des ministères qui ont encore certaines tâches à accomplir dans l'église du Dieu vivant. Permettez-moi de vous le lire à partir de trois passages bibliques. Hébreux, chapitre 13, 16, versets 16 et 17. Hébreux, chapitre 13, versets 16 et 17. N'oubliez pas de faire du bien et de dire ce qui est bon, car ce sont là des sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Maintenant arrive. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur vos âmes, comme ceux qui auront un jour à rendre compte, qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, car ce ne serait pas un avantage pour vous. Bien-aimés, Dieu a une église et Dieu a un ordre dans l'église. Avez-vous entendu cela? Dieu est un Dieu d'ordre. Il ne veut pas de désordre. En ce moment, tout le monde fait cavalier seul. Chacun veut être berger. Chacun veut être prédicateur. Chacun veut être tout. Et chacun veut faire quelque chose pour lui-même, avoir sa propre chose à lui-même. La première question est, qui Dieu a-t-il vraiment établi? Qui Dieu a-t-il vraiment envoyé? Qui construit? Qui déchire? Qui contribue? Et qui souhaite la dispersion, la division? Notre Seigneur a dit alors, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Oui, mais si le Seigneur est avec nous, et lui avec nous, alors nous rassemblons avec lui, nous édifions avec lui. Si le Seigneur n'est pas avec nous, alors nous dispersons, nous divisons, alors nous déchirons, alors nous partageons, nous divisons. Et combien de fois l'ai-je déjà dit? Combien de fois on peut venir en habit pieux avec les ruses et la malice dans le cœur et sourire de tout son visage? Cela ne va pas devant Dieu. Dieu regarde les cœurs. Il voit l'insolence sans fond et l'hypocrisie de beaucoup, de ceux qui pensent devoir aller de maison en maison pour travailler les autres. Car ils pensent en eux-mêmes, car après tout, ils n'en savent pas assez. Nous devons aller leur dire ce qu'ils ne savent pas encore. C'est ce qu'ils pensent des autres. Alors, ils sont obligés, ils se sentent obligés d'aller leur dire ce qu'ils ne savent pas encore. Non. Mais bien aimé, Dieu a un ordre dans l'église. Et celui qui ne se sent pas attiré par l'église et qui n'en fait pas partie, il devrait se demander si le moment n'est pas venu de dire, Seigneur, donne-moi la place que tu m'as réservée dans ton église. Que disait David? Je préfère être gardien de porte, mais dans la maison de Dieu, toujours là, ici, obéissez à vos conducteurs, dirigeants, bergers, sentinelles, observez, obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux. Si l'on voulait aujourd'hui parler à quelqu'un et peut-être lui donner un conseil au nom du Seigneur, que vit-on alors? Que voyons-nous alors? Bien aimé, le temps est venu d'avoir une véritable conversion à Dieu et de vivre une transformation intérieure et de nous rendre dociles par Dieu. Car l'homme naturel résiste toujours à la partie spirituelle et à l'esprit de Dieu et ne pourra jamais se soumettre. Mais tous ceux qui sont de Dieu écoutent la parole de Dieu. Qu'il s'agisse d'un avertissement, d'une correction, d'une réprimande, que ce soit par la connaissance, par l'enseignement, tout ce qui vient de la parole de Dieu, celui qui est né de Dieu écoute la parole de Dieu en toute situation. Que cela l'arrange ou pas. Et c'est pourquoi nous devons tout simplement nous mettre à l'épreuve. Nous soumettre à l'épreuve de la parole de Dieu, revoir notre attitude intérieure et voir où nous en sommes. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur vos âmes en tant que personnes qui devront un jour rendre des comptes. Promenez-vous aujourd'hui dans tout le pays et vous trouverez des gens qui regardent l'église du Seigneur de haut en disant, je ne pense même pas à y retourner, moi y retourner là-bas. Oui, allez-y, mais moi pas. Et qu'est-ce que c'est? Aveuglés par l'orgueil, ils se sont perdus dans leur propre voie, dans leur propre justice, et ils ne savent pas se conformer à la parole de la vérité. Tu dis que tu es très riche et que tu as tout, n'est-ce pas? Et tu ne sais pas que tu es justement toi, misérable, pitoyable, aveugle, nu et nu. Ça, c'est la condition de ceux qui pensent pouvoir tout ignorer et jurer et juger tout le monde, se lever au-dessus de tous, mais ils ne sont pas prêts eux-mêmes à se soumettre au jugement divin et à la parole de Dieu. Ils veulent être les maîtres de tous les autres. Il n'y a pas de dominateur de l'un sur l'autre, ni un. Ce ne sont pas les sentinelles de Dieu qui le feront, jamais, ni un berger que le Seigneur a établi dans l'église. Non, un seul règne et gouverne sur nous tous par sa parole, avec son bâton de berger, et c'est l'arche. C'est le grand berger, notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il a besoin d'une personne qui annonce sa parole fidèlement et qui sont sages. Et tous ceux qui font partie du troupeau écoutent sa voix. Et sa voix, c'est sa parole. Et il a dit, mes brebis entendent ma voix. Pas de détachement. Ni de solo ici, ni de cavalier seul là. Mais unis sous une seule tête. Jésus-Christ, la tête de l'église, imprégnée de son Saint-Esprit. et de sa parole comme une foule rachetée par le sang. Hébreux 13, verset 17, il relit. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur vos âmes, comme ceux qui auront un jour à rendre compte. Qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, car ce ne sont que vous le croyez ou pas. Un vrai berger établi par Dieu, si celui-ci doit soupirer au sujet d'une sœur et gémir au sujet d'un frère, il est temps que ce frère et cette sœur rentrent en eux-mêmes et s'examinent pour savoir ce qu'il en est devant la face de Dieu. Avez-vous entendu? Vous pouvez l'entendre encore une fois sur l'enregistrement. Je peux le dire encore une fois, au nom du Seigneur. Malheur à tous les frères et sœurs croyants qui doivent porter la peine des bergers vraiment établis par Dieu et qui gémissent, comme il est écrit ici. Parce qu'ils voient bien que le frère et la sœur ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, mais qu'ils le pensent et que le berger le remarque. Mais eux, ils le pensent et le berger le remarque. Et il sait si les brebis restent dans le troupeau ou non, si elles s'isolent, etc. Heureux ceux à qui il est écrit que les bergers rendront compte en ce jour-là avec joie et non en gémissant. Dieu a une église. Dieu a un ordre dans l'église. Dieu a une tâche pour l'église, un ministère avec l'église. Et celle-ci doit être mise en état de le servir. L'Église doit être mise en état de le servir. Je voudrais continuer à lire quelques versets du 5e chapitre de 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 5, le chapitre 5 du premier verset, 1 Pierre, 1 Pierre, chapitre 5, verset 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui vous a été confié et surveillez. Et surveillez-le. Les sentinelles doivent être comme sur des murailles. Ils doivent veiller sur vous. Renforcez la surveillance. Frères bien-aimés, qui êtes venus chez nous, que le Seigneur vous bénisse. Restons unis, renforçons la garde et servons ensemble le peuple de Dieu. L'ennemi fera tout pour détruire et diviser. Il souffle partout avec la musique, n'est-ce pas? Et les gens dansent comme ils dirigent, comme l'ennemi dirige. Mais l'église du Dieu vivant est pour lui une épine dans comme une pine dans les yeux. C'est nous qu'il veut tuer. Cela a commencé avec Abel et s'est poursuivi jusqu'à Zacharie qui a été assassiné devant l'autel des holocaustes. Et Jésus a dit, tout le sang sera redemandé à cette génération, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie. Et qu'avons-nous dans le Nouveau Testament? Le sang des martyrs et des témoins de Jésus a coulé. Mais la vérité rayonne encore aujourd'hui. Loué soit le nom du Seigneur. Et nous avons aujourd'hui la même révélation de la parole et du nom de Jésus comme au commencement. Autrefois, nous avons vécu une grande partie de la restauration et du rétablissement et de la correction. Nous arrivons maintenant à la conclusion de ce que Dieu veut faire dans l'Église. À partir du verset 2, encore une fois, 1 Pierre 5. Percez le troupeau de Dieu qui vous a été confié. Et surveillez-le, non par contrainte, mais avec un joyeux empressement, selon la volonté de Dieu. Que vous l'acceptiez ou pas, j'espère que vous le ferez. Il n'y a pas d'homme de Dieu qui ait une volonté propre. Un véritable homme de Dieu dit, Seigneur, fais que je sois trouvé dans ta volonté. Et ça, c'est le cri de notre âme. Qui s'élève vers le trône de Dieu, comme nous l'avons entendu dans l'un des sermons, rendre un service à Dieu sans être soi-même dans sa volonté. Beaucoup veulent aider Dieu, mais Dieu ne les a pas du tout appelés. Ils ne font que se mettre en travers de leur chemin et de celui des autres. Que Dieu ait son chemin avec nous C'est de ça qu'il s'agit. Et lorsque cela se produit à travers les différents ministères dans l'Église, alors il y a une harmonie divine, une collaboration entre les apôtres, les prophètes, les bergers, les enseignants et les évangélistes et les anciens, quels qu'ils soient. Alors c'est l'harmonie. Alors l'un n'est pas jaloux de l'autre. Au contraire, chacun se réjouit avec chacun quand Dieu peut utiliser l'autre avec puissance. Il relit la deuxième partie du verset 2 de 1 Pierre 5. Non dans un vain esprit de profit, mais avec dévouement. Maintenant le verset 3. Non pas non plus comme dominateur sur ceux qui vous sont confiés, mais comme modèle pour le troupeau. Non pas dominé par la force, mais laissez Dieu régner, laissez sa parole régner. Ses ordres et tout ce qu'il a dit doit être valable dans l'église du Dieu vivant. Encore une parole glorieuse tirée du chapitre 13 des Hébreux. Hébreux chapitre 13, du verset 20. Hébreux 13, verset 20. Mais le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts par le sang de l'Alliance éternelle, le grand berger des brebis, notre Seigneur Jésus, qu'il vous revête de tout bien pour accomplir sa volonté et qu'il opère en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui la gloire est due éternellement. Amen. C'est écrit ainsi dans la parole de Dieu. Par le sang de l'Alliance éternelle, le Dieu éternel a conclu en Christ une alliance éternelle avec tous ceux qui auront part à la vie éternelle. Et ils respectent à leur tour cette alliance que Dieu a conclue. Et Dieu la respecte à son tour envers nous, comme c'est bien résumé ici. Mais le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts par le sang de l'Alliance éternelle, qui est le grand berger des brebis, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ. L'a-t-il ressuscité des morts? Dieu l'a-t-il ramené d'entre les morts? Oui, il l'a fait. Il a fait, bien sûr qu'il a fait. Ressuscité le troisième jour. Il a vaincu la mort, l'enfer et le diable. Il a pu dire, je suis vivant et j'ai les clés de la mort et de l'enfer. Mais le Dieu de paix, il relit le verset 20, qui a ramené d'entre les morts par le sang de l'Alliance éternelle, le grand berger des brebis, notre Seigneur Jésus. Bien-aimé, où repose votre foi? Repose-t-elle ailleurs ou dans l'œuvre accomplie de la rédemption? Dans l'œuvre accomplie par le sang de l'agneau, car c'est là la voie nouvelle et vivante, le chemin vivant, le chemin nouveau et vivant. C'est ce que dit l'Épître aux Hébreux, que Dieu nous a montré et inauguré à travers le rideau, le voile, c'est-à-dire à travers sa chair. Aussi certain que Dieu en tant qu'esprit dans une enveloppe de chair ici sur terre n'était pas visible pour les hommes, ils n'en ont vu que la forme extérieure. Et il disait, nous le connaissons. Il n'a pas encore 50 ans et il veut voir Abraham, avoir vu Abraham. Et notre Seigneur a dit, avant qu'Abraham soit, je suis. Alléluia. Loué soit le nom du Seigneur. Dieu a une église sur la terre, une foule rachetée par le sang, qui porte sa parole, qui porte son nom, qui porte sa nature, qui le verra quand il reviendra avec une grande puissance et une grande gloire pour ramener les siens à la maison. Cela se fera comme le dit le verset 21 de Hébreux 13, qu'il vous revête de tout bien pour accomplir sa volonté et qu'il opère en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ à qui la gloire est due éternellement. Amen. Ici, cette parole du bon plaisir est mentionnée. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon affection, tout mon plaisir. Matthieu 3. Et puis, la parole de glorieuse de Matthieu 17. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon bon plaisir. Écoutez-le. Il marche encore aujourd'hui au milieu des sept chandeliers d'or. Et sa voix est comme le bruit de nombreuses eaux. Il parle encore aujourd'hui. Chère âme, écoute bien cette phrase. Si tu reçois la parole prêchée comme la parole de Dieu, heureux es-tu. Et si tu ne penses pas qu'il y a un homme devant qui nous parle, non. C'est le Seigneur Dieu qui nous parle par sa parole. Heureux l'homme qui peut distinguer cela de la crainte et de la paix de Dieu. Sur lui viennent la paix et la crainte de Dieu et la sainte crainte, la paix et le repos dans le Dieu Tout-Puissant. Celui qui peut distinguer cela. Paul écrivait alors, vous avez reçu la parole que Sylvain et moi nous avons annoncée, non comme une parole d'homme, mais comme la parole de Dieu, ce qu'elle est en effet. Croyez-vous que c'est la parole de Dieu? Alors dites Amen. Dites Amen. Et sommes-nous tous prêts à faire face à la parole de Dieu, à la mettre en pratique et à dire Seigneur, sois avec nous par grâce, car le matin vient et aussi la nuit. Pourquoi es-tu prêt? Pourquoi es-tu prêt? Pourquoi est-ce que tu es prêt? Pour le matin ou pour la nuit? Ceux qui étaient prêts sont entrés. Mais ensuite, c'était la nuit. Puis la porte fut fermée. L'obscurité demeurait. Les autres, pour cela, le matin éternel se levait. Heureux et saint, béni et saint, bienheureux et saint, celui qui a part à la première résurrection. Bienheureux, les hommes qui croient et vivent toute la parole de Dieu et suivent et l'expérimentent et suivent le Seigneur et la pratiquent, la mettent en pratique dans l'obéissance et font ce qu'il a ordonné dans sa parole. Sentinelle, quelle est l'heure de la nuit? Le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez en savoir plus, revenez et demandez. Nous sommes revenus. Nous avons demandé et Dieu nous a répondu par grâce. Fraîchement descendu du trône, sa parole révélée par le Saint-Esprit, louée et exaltée, soit son glorieux nom de Jésus. Son nom de Jésus. Amen. Frère Rousse, Dieu fidèle, nous te remercions du fond de notre cœur pour ta vérité qui va de l'avant, même en ces jours. Seigneur, et nous savons que ta parole accomplie produit l'effet pour lequel tu l'as envoyée. Elle ne revient pas à vide, sans effet. Non, Seigneur, tu as envoyé ta parole et elle accomplira ce que tu as dit, Seigneur, et ne reviendra qu'après avoir accompli ce que tu as dit et exécuté ta volonté. Seigneur, que la gloire, la louange et l'adoration te soient offertes pour cela. Nous te remercions pour la diversité de tes paroles ce matin encore. Seigneur, tu nous as parlé, non pas un homme, non, mais tu nous as parlé par ta parole, Seigneur, par ton bon Saint-Esprit. Mais nous te remercions d'avoir utilisé cet homme, d'avoir utilisé des hommes et d'utiliser les hommes aujourd'hui encore. Seigneur, Seigneur, tu t'es toujours choisi des hommes. Non pas ce que les hommes t'ont choisi, parce que les hommes se sont choisis, mais ce que toi, tu t'es choisi toi-même. Tu t'es choisi tes prophètes et tu t'es choisi tes messagers. Seigneur, gloire, action de grâce et honneur à ton saint nom pour ta grande grâce et ton amour que tu as encore manifesté en ce jour. Seigneur, et que tu as envoyé tes signes et tes miracles. Seigneur, nous rendons gloire qu'à toi. Tu as confirmé ta parole. Tu ne l'as pas seulement envoyée, mais tu l'as confirmée, Seigneur. Merci et louange, gloire et adoration à ton merveilleux et glorieux nom de Jésus. Amen.